La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour vous parler d'un sujet qui concernait l'être et le faire. Voilà, donc c'était pour vous parler de l'être et du faire avec cette idée qu'il est préférable d'agir en conséquence de ce que nous sommes et de trouver notre rôle dans notre être plutôt que le contraire qui consisterait à considérer ce que nous sommes au regard de ce que nous faisons. Et notre week-end d'église a vraiment approfondi cette idée-là avec Jean-Pierre Civelli, qui nous a conduit dans une recherche de nos dons, de nos caractéristiques personnelles, pour nous inscrire harmonieusement dans l'action de l'église, pour trouver dans l'église notre place, notre rôle, notre fonction. Et nous avons aussi considéré notre cœur, comment il nous porte à certaines actions, vers certaines actions par l'attrait qu'elles exercent sur nous et comment nous pouvons nous engager à travers cet attrait dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et aujourd'hui, je voudrais prolonger cette réflexion sur le terrain de la pensée, de nos pensées, sans perdre de vue la question de l'être et du faire, parce que l'homme est corps, hein, donc globalement on peut dire le corps c'est le faire, âme, c'est l'être, et esprit, la pensée. Et quand quelqu'un, et là Gabriel, si tu peux afficher la première image, le premier texte, quand quelqu'un vient questionner Jésus sur ce qu'il convient de faire, et uniquement faire, ce dernier lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et donc, le corps, âme, esprit, le faire, l'être, la pensée. Et en de multiples circonstances, et sur tout sujet, nous sommes sollicités par cette question, qu'en pensez-vous? Alors déjà, des fois, je ne résiste pas à l'humour de dire rarement. Et là, les gens ne comprennent pas bien ce que je veux dire en pensant au quand. Q-U-A-N-D, mais ce n'est pas la question qui m'est posée, ça permet juste de gagner un peu de temps. Et la question, c'est qu'en pensez-vous? Et j'avoue qu'elle m'embarrasse bien souvent, ce qui ne m'empêche pas de la poser à d'autres, au moins autant souvent, et même plus, qu'on ne me la pose. Et elle est presque une question, qu'en pensez-vous? C'est presque une question inévitable dans toute conversation qui s'attarde sur un sujet. Et là, vous pouvez plus vous dérober, il faut en penser quelque chose. Comme si, sur tout sujet, à tout moment, vous étiez blindé de pensées, d'opinions, de certitudes sur la question. Essayez une fois, rien qu'une fois, de dire « je n'en pense rien » ou « j'ai jamais réfléchi à la question ». Et là, vous allez tout de suite passer pour une bête curieuse. Et c'est vrai que la question nous est souvent posée à tort et à travers, et qu'en fait, surtout, on cherche à savoir, à travers cette question, ce que vous êtes. Si vous pensez ceci, c'est que vous êtes de gauche. Si vous pensez cela, c'est que vous êtes croyant. Mais généralement, en particulier dans les communautés constituées, hein, que ce soit le travail, la famille, l'église ou les associations, c'est votre avis qui est recherché pour conforter son propre point de vue, peut-être, l'enrichir, le réajuster, le confronter au vôtre, et même, des fois, pour vous dire que vous avez faux sur toute la ligne. Hein, c'est assez drôle quand des gens viennent vers vous et vous demandent, des gens à qui vous ne demandez rien, qui vous posent la question, qu'est-ce que vous en pensez, et puis qui, derrière, vous mettent votre avis en charpie. Mais quelquefois, la question se fait plus précise. Que faut-il en penser ? On entend beaucoup ça, hein. Que faut-il en penser? Bien entendu, c'est une expression toute faite, mais il y a déjà peut-être derrière ça plus une sorte de classification, d'évaluation, un désir de penser juste par rapport à un certain référentiel. Penser juste, quelle idée? Comment ça? Hein, quelle drôle d'idée, ça, penser juste. On pense ce qu'on pense, point, hein, c'est généralement ce à quoi on croit. Mais est-ce qu'on réalise à quel point ce qu'on pense conditionne ce qu'on fait et même ce qu'on devient? Et un jour, j'ai assisté à un échange entre un patron et celui qui devait lui succéder à la tête de l'entreprise. Et c'était vraiment un échange intéressant, mais vif, hein, musclé. Hein. Et à un moment, l'ancien patron s'en est pris à son dauphin en lui reprochant ses propos, qui jugeait incompatibles avec la fonction à laquelle ce jeune homme aspirait de direction de l'entreprise. Au bout d'un moment, ce dernier, exaspéré, lui rétorque « Mais si je peux même plus dire ce que je pense ?» Et le patron lui répond « Mais ce qui est grave, mon ami, c'est pas que tu le dises, c'est que tu le penses. » Alors c'est un peu hussard, hein, c'est un peu une façon de parler à la hussarde, mais j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Nous avons en France la sacro-sainte liberté de penser. Merci Seigneur, quel préjudice est fait aux peuples qui sont privés de cette liberté de penser. Mais quand même, penser juste, c'est tout de même un sérieux avantage pour affronter la vie et réaliser nos projets. Nous croyons bien souvent que nous n'avons pas la maîtrise de nos pensées. Pensées que nous appelons idées, croyances, opinions, afin peut-être de les soustraire à la mise à l'épreuve, à la remise en question. Nous croyons bien souvent que ce que nous pensons vient en droite ligne de ce que nous sommes, est une émanation de ce que nous sommes, et que nous ne pouvons pas penser autrement, sauf à nous renier nous-mêmes. Mais je voudrais plutôt vous faire considérer l'histoire d'un homme qui s'appelle Saul. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, et là, dans la nouvelle doctrine, c'est en fait l'Église, hein, l'Église naissante, hein, les disciples de Jésus-Christ, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc je fais une petite coupure là, et puis ensuite je continue ma lecture. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les amener liés ?» devant les principaux sacrificateurs. Entre ces deux textes, ces deux passages, quelques jours seulement, une semaine, 10 jours, 15 jours maxi. Entre ces deux passages, vous voyez un homme qui respire le meurtre. Ça nous dit quelque chose, ça. Hein, dans les circonstances que nous vivons, un homme qui respire le meurtre. Et le deuxième passage où il prêche dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, ce Jésus même dont il avait fait son ennemi et dont il avait fait les disciples ses ennemis. Entre ces deux épisodes, que je n'ai pas lus, mais que vous pouvez aller lire, entre ces deux épisodes, une rencontre avec Jésus, une profonde remise en question, une conversion et un baptême. Nous croisons déjà Saul un peu plus tôt, lorsque Étienne, le premier martyr chrétien, est lapidé. C'est à ses pieds, c'est aux pieds de Saul qu'on vient déposer les vêtements d'Étienne. Et donc, non seulement Saul était présent, mais il nous est dit aussi dans le texte qu'il approuvait cette lapidation d'un disciple de Jésus. Saul était un homme instruit, une élite religieuse de son temps, bien loin de se laisser manipuler, même par un conseil de sacrificateurs en furie, de gens de la plus haute autorité religieuse. Quand Saul approuve la lapidation d'Étienne, il est animé d'une profonde conviction étayée par toute une science des Écritures et les traditions hébraïques. Ce n'est pas un pantin qui assiste et applaudit sans réfléchir lors de cette première mise à mort d'un disciple de Jésus. Deuxième diapositive, s'il te plaît. Saul revient quelques années plus tard sur cette partie de sa vie. Quand il écrit aux Galates, il leur dit « Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. Et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. » Et sur le chemin de Damas, sur lequel il s'est engagé avec des recommandations pour entrer dans les synagogues et persécuter les chrétiens, une conversion. Son cœur est touché profondément, car il réalise qu'en persécutant les chrétiens, il a persécuté son Dieu qu'il croyait servir. Son corps est touché, il tombe à terre, et ses yeux sont aveuglés par cette lumière qu'il transperce. Mais c'est aussi à une conversion de la pensée à laquelle nous assistons. Saul tourne littéralement le dos à ses pensées passées à propos de ce Jésus, de ses disciples, pour s'imprégner de la pensée de Jésus et lui faire de nouveaux disciples. Saul en finit avec cette haine qui l'animait. Et j'ai été frappé ce matin, je ne sais plus comment Fabrice a dit, mais abandonner le plan de haine, c'est ça que tu as dit, pour un plan d'amour. Voilà une démonstration profonde de ce que c'est qu'une conversion de la pensée. Abandonne cette haine qui l'animait, c'est même dit de manière très, très, très forte, respirait le meurtre. Hein, c'est quelque chose qui est fort. Et Paul écrira même une des plus belles pages de la Bible sur l'amour et sur ses effets. Malheureusement, et voilà, nous le constatons sous nos yeux, des hommes adoptent des pensées de haine qui les conduisent à commettre des actes meurtriers. Ce mot de radicalisation qui fait l'actualité maintenant depuis plusieurs années n'est ni plus ni moins l'adoption et l'assimilation de pensées de haine par des personnes qui, la plupart du temps, était bien loin de tout cela. Comme chrétiens, nous sommes assez à l'aise avec l'idée qu'il convient de dominer nos pensées, et en particulier les pensées qui mènent au péché, qui conduisent au péché, à plus forte raison les pensées qui sont au péché. Mais il nous est par contre beaucoup plus difficile d'admettre que nos valeurs, nos conceptions de la vie, et de la vie chrétienne en particulier, de la famille, du travail, de l'Église, et beaucoup moins l'expression de notre être profond, que le résultat d'un processus de pensée auquel nous avons plus ou moins consciemment pris part, en partie auquel nous avons été soumis par notre culture, notre vécu, notre éducation, et peut-être aussi auxquels nous nous sommes soumis. Dans notre utilisation quotidienne de l'informatique, il nous est tous arrivé de recevoir ce message « Le programme bidule ne répond plus ». Avoir les têtes, je crois que c'est quelque chose qui arrive trop souvent à notre goût. Et des fois, un peu de patience suffit pour que tout rentre dans l'ordre, mais d'autres fois, rien n'y fait. Il faut fermer le programme. Et là, vous perdez tout ce que vous avez fait. Et dans de nombreux cas, le programme est entré dans ce qu'on appelle une boucle. Il tourne dedans cette boucle à l'infini, comme ceci, sans jamais trouver de porte de sortie. et il mobilise toute l'énergie de l'ordinateur, c'est-à-dire toute la puissance de l'ordinateur est concentrée sur cette action de tourner en rond qui ne sert à rien, et toute cette puissance qu'il met à ce service-là n'augmente en rien ses chances d'en sortir. Et il en est parfois de même avec nos pensées, elles tournent en rond dans des raisonnements pièges où il nous est très difficile d'envisager les choses sous un angle différent. Nous croyons que nos conclusions sont le fruit d'une longue réflexion, mais si nous y regardons de plus près, en toute objectivité, nous constaterions la pauvreté, leur pauvreté, et qu'elles ne tiennent debout que parce que nous les entretenons, en les ressassant encore et encore. C'est dans ces moments que nous avons besoin d'un déclic et d'une conversion de la pensée. Mais surtout, et même si nous avons toute liberté de penser, les pensées que nous adoptons déterminent beaucoup de choses dans nos choix, nos valeurs et, en fin de compte, dans nos actes. Si nous sommes libres d'adopter telle ou telle pensée, nous ne le sommes pas autant que cela à l'égard de ce vers quoi nous conduit cette pensée. Et voici, diapo suivante, ce que dit l'apôtre Pierre à des hommes qui se croient libres qui pensent qu'ils sont en train d'exercer leur droit de liberté, à la liberté, en s'adonnant sans retenue à tout ce vers quoi leur pensée les conduit, et tentent même d'entraîner avec eux ceux qui viennent juste de devenir disciples de Jésus-Christ. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans son livre « La tactique du diable », Lewis emploie une formule choc pour décrire l'esclavage vers lequel conduit la recherche d'une liberté basée sur la satisfaction du désir. Et il a cette formule choc, c'est très concis, mais c'est très parlant. Un désir sans cesse accru d'un plaisir toujours diminué. Et c'est en fait la définition de l'addiction. Mais Pierre aussi emploie une formule choc, nous venons de la lire. Tout homme et toute femme est esclave de ce qui a triomphé de lui ou d'elle. Qu'est-ce qui va triompher de nous? Par quoi allons-nous nous laisser vaincre? Des pensées de haine, comme Saul avant sa conversion? Ou plutôt, comme Saul après sa conversion, inviterons-nous à habiter nos esprits des pensées remplies de l'amour de Jésus? Et on l'a évoqué ce matin. De l'amour de Jésus pour tous ces hommes qui sont encore prisonniers et prisonniers de pensées et de raisonnements pièges. Allons-nous nous laisser vaincre par des pensées cupides, la convoitise, des désirs de toute nature, ou tournerons-nous nos pensées vers Dieu, notre Créateur, qui, à ce titre, tout de même, connaît assez bien ce qui va nous rendre heureux? Tout comme des parents savent assez bien que ce n'est pas dans la satisfaction de leurs caprices que les enfants trouvent leur épanouissement. Quelles pensées pour gouverner nos vies? De quelles pensées, de quels raisonnements pièges allons-nous nous libérer aujourd'hui? Vous avez sans doute entendu parler de pensées uniques pour décrire cet état où les hommes et les femmes abandonnent toute pensée personnelle pour adopter une pensée consensuelle. Et là, les médias s'y entendent à personne, et s'y entendent comme personne pour occuper nos esprits de pensées toutes faites. Et pour illustrer ce renoncement de la pensée individuelle Un humoriste a déclaré ceci. Tout le monde est d'accord pour critiquer la pensée unique. Pour ma part, je la définirais ainsi. Détendez-vous, ne pensez à rien, on s'occupe de tout. On pourrait aussi la qualifier de pensée facile, logique, raisonnable et de bon sens. Vous le savez sans doute, Saul est devenu Paul, celui que nous appelons l'apôtre Paul, et il a consacré sa vie à faire connaître Jésus-Christ, ce Jésus-Christ qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Et il a écrit des tas de choses passionnantes à des chrétiens de toutes origines, et en particulier ceux qu'il avait accompagnés, pris sous son aile, dont il s'était chargé de leur faire rencontrer Christ, Jésus-Christ, depuis le jour où il les a rencontrés jusqu'à ce jour. Et nous avons une bonne partie de ces écrits qui sont consignés là, dans la Bible, qui occupent une place importante, ce que nous appelons les épîtres de Paul, et en fait qui sont des lettres destinées aussi bien à des communautés chrétiennes qu'à des personnes avec lesquelles il a collaboré et entretenu des rapports étroits. Je vous encourage vraiment à les lire, ces lettres de l'apôtre Paul, mais vous constaterez très vite que c'est tout sauf de la pensée facile, logique, de bon sens, raisonnable. Il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher pour lire ces lettres de Paul. On est très loin de ces concepts bien formatés, faciles à comprendre, auxquels nos esprits sont confrontés habituellement. On est très loin d'un discours séduisant et dans le sens du poil. Et c'est en déployant toute sa connaissance des Écritures et en entretenant une proximité étroite et permanente avec Dieu que Paul va aider des personnes qui étaient à des années-lumière de tout cela et les aider vraiment à sortir de leur raisonnement piège. Diapo suivante, s'il te plaît. Vous arrivez à lire Non, pas trop. Désolé, j'ai mal visé la taille des caractères. Aux chrétiens de la ville de Philippe, voici ce qu'il dit. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue de courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma route vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. En tout cas, déjà, ils disent que finalement, nous disons depuis le début, ce sont nos pensées qui dirigent nos vies. Et nous avons la liberté de choisir les pensées par lesquelles nous voulons être gouvernés. Et la pensée dans laquelle il nous encourage vraiment à entrer, c'est de répondre à l'appel de Dieu. À l'appel que Dieu nous adresse et lui a adressé à lui, auquel il a répondu, sur le chemin de Damas, mais aussi chaque jour de sa vie. Il est possible que sur certains points, vous ne soyez pas d'accord avec moi, leur dit-il, tout en respectant leur propre sensibilité. Mais que cela ne nous empêche pas d'avancer ensemble dans cette direction. Quelques lignes plus tôt, diapo suivante, il leur a écrit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée. Tendez au même but. Pensée unique, pensée facile. » Il faudra qu'on m'explique en quoi il est facile de vivre en accord les uns avec les autres. Non, pensée commune, pensée partagée, pensée dirigée vers un but auquel nous décidons d'adhérer ensemble. On change de destinataire et voici ce que Paul écrit aux Corinthiens. Suivant. Merci. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. L'appel à l'unité n'est pas le propre des chrétiens. Les partis politiques le pratiquent. Et si vous êtes en manque, vous n'avez qu'à, en cette période électorale, ouvrir votre télévision et là, des appels à l'unité, vous en avez. Il n'est pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre qu'une armée qui va au combat en ordre dispersé court à sa perte. Quand on se désunit, on met un but contre son camp. Et il n'est pas si aisé que ça d'en parler, parce que évidemment, il n'est pas non plus question de déverser une pensée, la pensée unique à laquelle c'est cela que vous devez adhérer, c'est à cela que vous devez adhérer, tout en brandissant l'éventail. Si vous n'adhérez pas, nous allons vers la désunion. Mais porter atteinte à l'unité du groupe est une des armes favorites du diable. Même lui, le diviseur par excellence, a bien compris que son royaume sera compromis s'il est divisé. Et nous voyons, par exemple, dans l'Apocalypse, des forces ennemies s'unir pour combattre Dieu. Un titre tout à fait concret et réel, historique, le capitalisme et le communisme, des doctrines si éloignées, si à l'opposé l'une de l'autre, se sont alliés pour combattre le nazisme. Paul n'est pas le seul à avoir employé cette expression d'une même pensée. Et Pierre, apôtre Pierre, donc dans la diapo suivante, dans l'épître aux Philippiens, dont le verset ressort sur la diapo suivante, il écrit ceci. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Et il y a ce mot, compassion, qui sort ici et qui, évidemment, a une résonance particulière aujourd'hui. Et je pense que très concrètement, nous éprouvons ce matin une même pensée et un même sentiment de compassion à l'égard de toutes ces personnes victimes de cette haine aveugle. L'actualité nous donne là une occasion dramatique de nous unir dans la pensée et dans la prière. Mais prions aussi le Seigneur qui nous accorde l'occasion de nous unir dans une même pensée pour l'avancement de son règne dans cette agglomération de Clermont-Ferrand. Je vous propose de prier et ensuite j'aimerais que nous rechantions, parce que je ne m'attendais pas du tout, enfin j'avais vu la liste des chants, mais bon, je n'ai pas fait tilt, c'est tout. Ça ne m'avait pas sorti de mes petites réflexions. Le chant que nous avons chanté ce matin est incroyablement résonnant par rapport à tous les passages que nous venons de parcourir. Nous voulons vivre l'unité et tout ce que cela provoque et implique. Donc, prions. Et ensuite, je demanderai aux musiciens de revenir pour nous conduire dans ce chant. Oui, Seigneur, les circonstances dans lesquelles nous sommes ce matin nous conduisent aussi dans une même pensée, une pensée de compassion à l'égard de toutes ces personnes qui souffrent de haine aveugle. Et aussi peut-être dans une pensée, comme Fabrice nous l'a esquissé, qui consiste à croire que toi, tu peux convertir les pensées, que des hommes et des femmes qui respirent le meurtre puissent vivre cette conversion de la pensée pour s'engager dans une démarche où ils te rencontrent et découvrent ton amour, un amour communicatif, un amour qui se partage. Seigneur, oui, je veux te demander pour nous en tant qu'individus, pour nous en tant qu'Église, que tu nous aides à sortir de nos raisonnements pièges, de toutes ces choses, de toutes ces pensées qui finalement nous retiennent prisonniers, des préjugés, des a priori, et qui nous empêchent peut-être de voir la lumière de ta face. Seigneur, conduis-nous, convertis nos cœurs, convertis nos pensées. Engage-nous, Seigneur, dans cette conversion de la pensée qui fera de nous des frères et des sœurs unis, qui pourront, sous une même pensée, dans leurs différences, mais dans l'unité, agir auprès de tous ceux vers qui tu nous enverras. Amen.